Il faut que tu respires.
Enerco Amag sur CFM Radio. Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, deuxième volet des émissions consacrées à Quercy Écomatériaux. J'ai le grand plaisir d'avoir en studio avec moi Chloé Murgue, qui est donc associée dans cette belle initiative qui a vu le jour il y a quelques années dans le Lot, précisément à Livernon. La dernière fois, on avait comme invité Boris, qui est donc l'associé. Et donc aujourd'hui avec Chloé, on va tout d'abord savoir qui elle est un petit peu, et ensuite on va voir avec elle qu'est-ce que on fait Enercoa et Quercy Écomatériaux ensemble. Bonjour Chloé, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir.
Donc je suis Chloé Murgue, co-gérante de Quercy Écomatériaux avec Boris Segui, que vous avez entendu sur la même antenne la semaine dernière, et cofondatrice du magasin Quercy Écomatériaux à Livernon.
Très bien. comment ça se fait? Parce que tu n'as pas vraiment l'accent du coin, toi. Tu n'es pas comme moi, originaire. Tu n'es pas d'ici, quoi, comme on dit.
Non, je ne suis pas d'ici. Je suis née dans le Nord.
Ouais.
À Roubaix, et j'ai grandi en région parisienne. Et je suis arrivée dans Lot en 2021.
D'accord. Ça, c'était à l'occasion d'un épisode un peu, complexe et compliqué de cette époque-là, dans le monde entier. Hein.
Oui, c'est ma venue et suite à la crise Covid et à la décision de changer de vie. De parcours professionnel et un peu vivre l'aventure.
Très bien. Ouais. Alors, quelles sont les raisons, en fait, parce que si j'ai bien compris, dans le peu d'échanges qu'on a pu avoir avant de nous retrouver en studio, c'était pas si évident que ça au départ que tu aies, l'activité que tu as aujourd'hui, parce que tu exerçais une autre profession assez éloignée de celle que tu exerces aujourd'hui, avant.
Oui, j'aime bien dire en rigolant que c'est un accident de parcours.
C'est très bien.
La création de ce magasin, parce que c'est suite à des mésaventures professionnelles, entre autres. Mais surtout, l'origine de ce projet, c'est une passion pour l'éco-construction, les matériaux. Et l'envie de faire découvrir et de démocratiser les matériaux pour l'éco-rénovation et l'éco-construction.
D'où vient-elle cette envie, cette passion?
Je pense que la maison, pour moi, c'est un peu un lieu refuge dont j'ai envie de prendre soin et qui prenne soin aussi des habitants. Et j'ai, je sais pas, c'est tout un parcours. Avec des étapes, mais en tout cas, je sais qu'à un moment, j'ai voulu plus mettre la main à la pâte, faire un travail moins théorique, et du coup, m'intéresser plus à des choses pratiques.
Matérielles, d'accord.
Ouais, voilà.
Ah, ok, d'accord. Ah oui, c'est vraiment l'envie de mettre la main à la pâte dans un domaine, en plus, qui est, je dirais, par le temps qui court, plutôt intelligent et judicieux, me semble. Parce que, effectivement, alors pour revenir un tout petit peu à ce qu'on avait déjà évoqué avec Boris, Enercoa et Quercy Écomatériaux ont mis en place un partenariat qui permet notamment aux sociétaires, ou en tout cas à toute personne intéressée sur le territoire, qui ont des projets de rénovation, de le faire avec des matériaux qui ne sont pas issus des produits dérivés du pétrole dit carboné. Donc, quel type de matériaux, plus précisément, ont la cote chez vous, dans votre magasin? Quels sont les matériaux qu'on vient vous solliciter plus particulièrement, plus souvent?
Ouais. Le matériau phare, je dirais que c'est la fibre de bois comme isolant. D'accord. Donc en panneaux, aussi bien pour l'isolation des murs, de la toiture que des planchers. Après, j'aime bien dire aussi que c'est quand même des matériaux, les isolants biosourcés, qu'on retrouve ailleurs dans des négoces plutôt conventionnels, mais que, sur lesquels peut-être les vendeurs n'auront pas beaucoup d'indications à donner ou pourront bien indiquer si c'est le bon matériau à la bonne place. Voilà, donc il y a aussi y a d'autres types d'isolants en panneaux à base de chanvre, de lin, coton. Et après, il y a aussi des isolants en vrac.
Ouais. Du lin et du coton aussi.
Alors, y a ça, c'est le Biofib Trio, c'est lin, coton, chanvre.
C'est pas vrai. Ah, ouais. D'accord, ça c'est une découverte pour moi. D'accord.
Et il y a aussi, peut-être vous connaissez les isolants, toujours en panneau, mais à base de coton recyclé. Donc très concrètement, c'est les vêtements qu'on met dans les bennes relais.
Ça, j'en avais entendu parler un tout petit peu.
Qui sont valorisés
D'accord.
Et
c'est
qui
bien.
Servent donc, pour l'habitat.
Très bien. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a trouvé moyen de récupérer un tout petit peu tout ce qui est jeté.
Ouais.
Voilà, mais c'est
et
très,
du
très
coup,
bien.
Tout ça, c'est produit en France. Donc, les matériaux viennent, enfin, les matériaux d'origine sont viennent de France et sont fabriqués, usinés en France. Donc, voilà, aussi bien pour la fibre de bois que les panneaux en jean ou en chanvre.
D'accord. Voilà, est-ce que donc les matériaux en question, qui sont donc d'origine, on peut les appeler écologiques, est-ce qu'il y a des moyens de s'approvisionner dans notre région, enfin, sur le territoire qui nous est proche et voisin, quoi?
Ouais.
Bien.
Alors, bah, justement, la fibre de bois, donc nous, on travaille avec un fabricant qui s'appelle Steico et qui a une usine à Casteljaloux. Donc, c'est, je dirais, à 2 heures de route de chez nous.
Okay.
Après, par exemple, pour les chaux hydrauliques, on travaille avec Saint-Astier, donc, qui est près de Périgueux.
D'accord.
Dans le 47, si je ne me trompe pas.
Oui, oui.
Pour la chaîne Vought, elle vient de Caylus, donc dans le 81.
Oui, je vois très bien.
C'est une chanvrière locale qui s'appelle Virgocop. Après, par exemple, les panneaux de chanvre dont je parlais viennent de Vendée. Le métis vient des Hauts-de-France. Donc là, c'est un peu plus loin, mais ça reste quand même un produit français.
Territoire français. C'est pas local, mais c'est français.
Oui, voilà.
D'accord.
Ou moins. Voilà, même pour les suspentes métalliques qui servent pour l'isolation des murs, des rampants, ça aussi, c'est un produit français.
D'accord. Voilà. OK. Donc, pour revenir un tout petit peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des produits phares aussi, mais du point de vue de la, comment dirais-je, de la facilité à l'utilisation, etc. Quels sont les produits que vos clients, si on peut les appeler comme ça, sollicitent le plus souvent chez vous?
Y a ce qui est plus connu, c'est quand même les isolants en panneaux, qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Et ce qui est assez publicité aussi, c'est le chaud-chanvre en enduit ou en banchage. Et donc là, il y a une saison, c'est plutôt printemps-automne, quand il ne fait pas trop froid, ni trop chaud, pour mettre en œuvre la chaux sur son chantier.
Ah, ce qui veut dire que quand il fait très chaud l'été, il vaut mieux l'éviter. Pour quelle raison?
Parce que ça sèche trop vite et du coup il y a un phénomène de retrait. Enfin, la prise ne se fait pas bien et puis il faut que ça sèche lentement. Donc ça, en été, ça risque de sécher trop vite et en hiver de ne pas sécher.
D'accord.
Parce que les températures sont trop basses.
Et donc elle perdrait une partie de ses qualités, quoi.
Oui, c'est ça, exactement.
D'accord.
Et
okay.
Du coup, faudrait reprendre. Donc on perd du temps sur son chantier, on achète de la matière en plus. Mais il existe une alternative, c'est des blocs chaux-chanvre tout faits à maçonner. Et là, du coup, il n'y a pas de temps de séchage. On peut attaquer.
Ils sont prêts à poser, quoi.
Voilà, ils sont prêts à poser. D'accord. Et après, il y a juste l'enduit de finition à faire par-dessus. Et ça, par exemple, on peut le faire toute l'année.
Donc, l'enduit avec quoi?
Alors, vous pouvez faire un enduit à base de chaux, ou bien à base d'argile, ou bien plâtre chaud, plâtre éther.
D'accord. Voilà. Oui, plutôt presque traditionnel, quoi, on va dire, même si l'enduit...
Bah, on peut choisir les matières avec lesquelles on aime bien travailler.
Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Par exemple, mettre un masque pour éviter de respirer les particules?
Alors notamment pour la ouate de cellulose à souffler, ou bien la fibre de bois à la découpe, ça fait quand même beaucoup de poussière, et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est bien de prévoir le masque et aussi les lunettes de protection.
Oui, pour éviter d'en avoir partout, dans le nez, dans les yeux, dans la bouche, etc.
Ouais.
D'accord.
on sent l'expérience, le vécu.
Non, pas tellement, mais j'ai vu effectivement ce que ça donne quand on va demander à quelqu'un, par exemple, de couper un panneau de placo, très, très, on voit bien que la plupart du temps, ils ne s'amusent pas à le faire à la cave où il n'y a pas d'aération, ils se mettent plutôt à l'extérieur, il doit y avoir raison. Hein.
Oui.
Donc je suppose que c'est aussi pour éviter, parce que ce sont des poussières malgré tout lourdes, c'est-à-dire que quand ils se déposent, après c'est compliqué de le faire partir. Hein.
Oui, et puis même si c'est des matériaux naturels, ça ne veut pas dire que c'est inoffensif pour la santé. C'est
bien
comme
sûr.
La chaux, il faudra porter des gants parce que c'est un peu corrosif.
Bien sûr.
Voilà, il y a des précautions.
Bien sûr. Bon, alors, le partenariat entre Quercy Éco-Matériaux et Enercoa, si j'ai bien compris, porte aussi sur une certaine capacité à organiser des, comment les appeler, pas forcément des ateliers, mais des rencontres, des réunions où on peut échanger des expériences, apprendre quelque chose, en présence ou pas d'un professionnel. Vous le faites également.
Ouais. Alors très concrètement, le partenariat entre Enercoa et Quercy Éco-Matériaux, c'est déjà que pour tous les coopérateurs, les sociétaires d'Enercoa, ont la carte membre Quercy Éco-Matériaux offerte, qui est valable un an. Et donc ça donne accès à tous les produits du magasin à moins 10%. Moins 20 par exemple sur tout ce qui est visserie, et aussi à moins 50% sur les ateliers qu'on organise. Donc il y a des ateliers rencontres, où là c'est plutôt des échanges, et après il y a les ateliers pratiques où là vraiment on met...
C'est plus de la formation, quoi.
Voilà, c'est ça. Sur une demi-journée avec un artisan ou un spécialiste. Voilà, c'est pas nous, c'est pas Boris et moi qui faisons l'atelier, c'est on fait venir quelqu'un. Et
d'accord.
C'est lui qui anime l'atelier ou les échanges.
Très bien.
Donc, par exemple, l'an dernier, on a organisé un cycle d'ateliers autour de la chaux. Ensuite, au printemps, on a fait autour de l'argile. Et là, pour le printemps prochain, ce sera sur les cloisons en alternative au placo. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme cloison sans utiliser de placo?
Très bien.
Voilà.
Eh bien, on va faire juste une petite pause musical avec le beau et l'ancien Marvin. Let's go.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Yeah.
De retour à Nercoamag sur CFM Radio. Aujourd'hui, j'ai en face de moi Chloé, donc, et on reprend ce qu'on a à peine abordé juste avant la coupure musicale avec Quercy Eco Matériaux. J'organisais des formations, des rencontres, etc. Mais j'aimerais savoir aussi si vous êtes, en tant que conseil, par exemple, vous avez été amené déjà à participer, sous une forme ou sous une autre, à un chantier où le projet de rénovation, c'est un particulier, par exemple.
Oui. Alors, on a régulièrement des gens qui nous sollicitent pour savoir s'ils peuvent passer et s'il y a besoin de prendre un rendez-vous pour nous parler de leur projet. Parce que parfois, c'est des projets d'ampleur pour une rénovation globale, donc avec plusieurs postes de travaux. Il y a aussi des gens qui ont un projet de construction neuve qui nous sollicitent. Et pour savoir, par exemple, par rapport à leur budget, à leurs envies, aux propriétés des matériaux, par rapport à leur terrain, est-ce que tel ou tel type de matériau convient. Donc parfois, on peut passer une à deux heures à étudier un projet avec des gens. Après, on fait des devis, on échange. Quand nous, on n'a pas toutes les informations, on se retourne vers nos fournisseurs qui ont des bureaux d'études ou des logiciels pour valider une solution. Et on travaille aussi avec des bureaux d'études qui peuvent faire des études thermiques, de structure, quand c'est nécessaire, selon les projets.
Ouais, d'accord. Ouais, ok. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, l'objet de ce conseil est aussi de dire, en fait, par rapport à votre projet, à vous, ce qui vous coûterait moins cher, ça serait utiliser ce type de matériaux plutôt que... Est-ce que, effectivement, dans ce domaine-là, il y a des matériaux qui, à terme, sans parler de la mise en œuvre, etc., mais juste le coût de départ d'achat des matériaux en question, est-ce qu'il y en a que par rapport aux performances sont beaucoup moins chers ou d'autres qui sont beaucoup trop chers par rapport à une moyenne quels sont les matériaux on va dire les plus économiques entre guillemets?
Alors, je vais peut-être commencer par le moins économique. Donc typiquement là je pense au liège. Qui est une ressource naturelle, renouvelable, mais renouvelable tous les 7 ans. Quoi. C'est un arbre qui refait son écorce toutes les 7-8 ans. Donc ça ne pousse pas aussi vite que du pin, de l'épicéa, et d'où le coût.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est un matériau super parce qu'il est... indestructible, imputrescible et qui pourrait être... mis dans beaucoup de cas, aussi bien pour l'isolation des toitures, des soubassements, dans les caves. Mais à cause de son coût, on essaye de trouver parfois d'autres solutions pour ne pas... Enfin, quand c'est obligé, on utilise le liège, mais quand on peut mettre autre chose, pour des raisons économiques, on se tourne vers d'autres matériaux. Quoi.
Donc il y a d'abord des raisons... objective, à savoir le liège est incontournable, donc c'est celui-là, il coûte plus cher, d'accord.
Ouais.
Quand on peut utiliser un autre matériau, qui serait donc du coup moins cher, il serait peut-être quel type de matériau qui pourrait remplacer le liège quand c'est possible.
Par exemple, on peut mettre en toiture des panneaux de fibre de bois, des panneaux en chanvre, après le liège en vrac. Donc, c'est des petits granulés, sont moins chers que les plaques.
D'accord.
Donc, ça, on peut les mettre en isolation de plancher, par exemple. Voilà. Après, il y a aussi la chaîne Vote, donc c'est de la fibre végétale qu'on peut déverser en vrac aussi. La Watt, qui est assez économique.
D'accord. Ouais. Mais par exemple, pour donner juste un ordre d'idée, hein, pas rentrer dans le détail, mais est-ce qu'on est, par exemple, entre le Liège et ce que tu viens d'évoquer, du simple au double, du simple au triple, ou alors 30%? Quel est l'écart de prix à l'achat toujours, hein, pas à la pause, quoi. On prend pas en compte l'intervention de l'artisan, mais juste le prix, le coût d'achat du matériau.
Je pense que le Liège, on est bien au-dessus du double.
D'accord.
Ouais. Donc isolants.
Au mètre carré, si vous voulez poser du Liège, il faut compter le double par rapport à n'importe quel autre matériau.
Ouais.
D'accord. Donc c'est effectivement le choix quand il n'y a pas d'alternative.
Oui, c'est ça.
D'accord, ok. Donc, par contre, tous les autres sont équivalents en termes de coût
Non, après, moins le matériau sera usiné, moins il sera cher. Donc, par exemple, je pense à la chaîne Vote, ça passe dans des chanvrières, donc c'est quand même des usines, hein, mais c'est assez économique. Après, il y a aussi la botte de paille qui vient directement du champ de l'agriculteur, qui est assez économique. Mais là, il y a d'autres contraintes, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit prêt à poser.
D'accord.
Il faut quand même tester le taux d'humidité, est-ce que c'est la bonne densité, parce qu'il y a quand même des règles professionnelles qui s'applique à la construction paille, que ce soit pour l'isolation et si ce n'est pas des murs porteurs, mais il y a quand même des règles à respecter. Et là, ça demande plus de main d'œuvre que des produits fabriqués.
Donc, ça, c'est pour la pose, donc en fait. Ouais. C'est qui vient se rajouter au
C'est des contraintes.
Voilà, les contraintes de pose qui font qu'en fait, c'est beaucoup plus économique à l'achat.
Oui.
Mais en fait.
Il y a des coûts cachés.
Voilà.
Et notamment aussi celui du stockage, il faut pouvoir être en capacité de stocker à l'abri des intempéries, de l'humidité pendant un certain temps, et toujours tester les bottes de paille avant de les mettre en œuvre, avant de les mettre dans son mur, quoi.
Bien sûr. Bon, donc, en règle générale, en fait, alors, parmi les matériaux, on va dire, qui sont à peu près équivalents en termes de prix à l'achat, est-ce qu'il y en a qui ont plus la cote que d'autres ? Chez les artisans, par exemple, qui sont en train de, je l'espère, de plus en plus nombreux, de se convertir à l'utilisation des matériaux biosourcés.
Nous, on est des artisans qui font pas mal de chaux-chanvre, projetés notamment, mais pas que, aussi projetés manuellement, ou sinon aussi du terre-chanvre. Parce qu'ils aiment bien, parce que la terre c'est plus un matériau plus agréable à mettre en œuvre.
Et nous venons tous de là d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Par contre, les temps de séchage sont plus longs. Voilà.
D'accord. Donc les contraintes
ne sont pas les mêmes.
Voilà, ce qui veut dire que à la rigueur, quand le chantier arrive à son terme, entre le coût d'achat et le coût des artisans et le temps nécessaire pour pouvoir utiliser correctement les matériaux en question, tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut tenir en compte.
Exactement. Et moi, c'est des questions
lors du choix ou de départ, en fait.
Que j'aime bien poser quand des gens viennent nous voir pour leur projet. On fait un peu le tour des souhaits, de ce qu'ils imaginent visuellement, en termes d'acoustique. Et après, il y a les questions.
Acoustique aussi, bien sûr.
Il y a les questions de budget et de délai. Et de logistique, l'accessibilité du site, parce qu'il y en a qui pourront pas se faire livrer en camion-grue, des big bags, parce que c'est pas accessible. Enfin, il y a quand même d'autres questions en dehors de juste quel matériau j'utilise. Et il y a aussi, est-ce que vous voulez faire une partie des travaux ou vous voulez tout faire et avec quoi vous êtes plus à l'aise ? Est-ce que vous êtes à l'aise ? Est-ce que vous préférez faire un chantier sec ou humide ?
Effectivement, il y a énormément de paramètres qui peuvent être... Effectivement, donc d'où l'intérêt à être clair dans les demandes de départ pour être au plus près des besoins une fois qu'on a établi le type de chantier qu'on va mettre en place.
C'est pour ça que c'est bien de partager, de venir nous voir quand ils ont un projet. Comme ça, nous, on fait le tour des questions et comme ça, ça permet d'orienter vers tel ou tel choix et la personne ne se retrouve pas seule avec juste son imaginaire et
Et les envies que je ne réalise pas. D'accord. Bien, bah écoute, Chloé, merci beaucoup de ton intervention. On arrive à la fin de cette émission. J'espère, bien évidemment, qu'on aura d'autres occasions, parce que je pense que le terrain est passionnant et il y a plein d'éléments qu'on n'a pas encore explorés. On verra si dans le futur, on a la possibilité de nous retrouver.
Bah avec merci. Un grand plaisir, je l'espère.
Merci encore. À bientôt.
CFM. CFM Villefranche.